Les grains de grenade, troisième partie. Un jour, pendant son pèlerinage, elle arriva devant le palais du roi Célé qui régnait à Éleusis. Après avoir franchi un vaste perron, elle pénétra sous le péristyle et trouva en alarme toute la maison du souverain. Le prince royal, enfant encore au berceau, était malade. Il souffrait d'une crise de dentition, je suppose. Il refusait la nourriture qu'on lui présentait et fendait l'air de ses cris. La reine Métanira désirait se procurer une nourrice et, voyant une femme d'apparence respectable monter les degrés du palais, elle se persuada que c'était la personne qu'il lui fallait en ce moment. Elle courut à la porte avec le pauvre petit enfant dans ses bras. Elle supplia l'étrangère d'en prendre soin ou, au moins, de lui dire quel remède on pouvait apporter à son mal. « Voulez-vous me confier tout à fait cet enfant ?»« Oui, avec plaisir, si vous voulez lui consacrer tout votre temps, car, je le sais, vous avez été mère. »« Vous avez raison, autrefois j'avais un enfant. Eh bien, je servirai de nourrice à ce petit garçon, si languissant aujourd'hui. Mais faites bien attention, je vous en avertis, à ne point vous mêler du genre de traitement auquel je peux juger utile de le soumettre. » Sans quoi, le pauvre petit sera victime de la folie de sa mère. Puis elle embrassa l'enfant et il s'apaisa aussitôt. Il se mit à sourire et se pressa de son mieux sur le sein de l'inconnu. Cérès déposa dans un coin sa torche, qui n'en continua pas moins à brûler, et s'installa dans le palais du roi Célé, en qualité de nourrice du jeune prince Démophon. Elle eut pour lui la sollicitude d'une mère véritable, mais ne permit ni au roi ni à la reine de dire si leur enfant devait être baigné dans l'eau chaude ou dans l'eau froide, de s'occuper de sa nourriture, de ses promenades ou de l'heure à laquelle il devait être mis au lit. Vous me croiriez difficilement si je vous racontais avec quelle promptitude le petit prince fut guéri de ses indispositions, devint gras, rose et robuste, et comment, en moins de temps que tout autre enfant d'un âge aussi tendre venu au monde avant ou depuis cette époque, il compléta ses deux rangées de dents d'une blancheur d'ivoire. Au lieu de cette créature, que la princesse elle-même appelait la plus pâle, la plus faible et la plus chétive du monde, au moment où elle en confia le soin à une étrangère, c'était alors un nourrisson fortement constitué, criant, riant, agitant de petites jambes nerveuses et se roulant avec pétulance d'un bout de la chambre à l'autre. Les bonnes femmes des environs accouraient en foule au palais et joignaient les mains d'étonnement en contemplant le petit prince dont la beauté et la force dépassaient leur imagination. Ce qui n'augmentait pas peu leur surprise, c'est qu'on ne l'avait jamais vu prendre aucune nourriture, pas même une tasse de lait. « Je vous en prie, nourrice, s'en allez, répétant la reine. Comment réussissez-vous à ce point dans vos bons soins ?»« J'ai été mère autrefois, répondait toujours Cérès. J'ai allaité mon propre enfant et je connais ce qu'il faut à ceux des autres. » Cependant, Métanira éprouvait naturellement une vive anxiété à l'égard de son fils. Elle aurait voulu savoir au juste en quoi consistaient les soins de la nourrice. Une nuit, elle se cacha dans l'appartement où Cérès et son nourrisson dormaient d'ordinaire. Un feu ardent avait été allumé dans la cheminée, les charbons s'étaient écroulés dans les cendres dont la mare remplissait alors le foyer. Des jets de flammes s'élançaient encore çà et là et répandaient sur les murs une teinte chaude et rougeâtre. Cérès se reposait, assise près de l'âtre, tandis que son ombre projetée vacillait au plafond, en suivant les mouvements capricieux de la flamme. Elle déshabilla d'abord le petit prince et le baigna dans un vase rempli d'un certain liquide parfumé. Ensuite, elle releva les cendres et y fit un creux, à l'endroit où la bûche du fond s'était consumée. À la fin, au moment où l'enfant gazouillait, frappait ses mains potelées et souriait, comme vous avez pu voir faire à votre petit frère ou à votre petite sœur, au moment où on va les plonger dans l'eau tiède, Cérès le coucha vivement, tout nu, dans le creux qu'elle avait disposé au milieu des cendres rouges. Puis elle poussa ce qui restait dans le foyer par-dessus son corps et s'éloigna tranquillement. Imaginez-vous, si vous pouvez, l'épouvante de Métanira. Elle pensa aussitôt que son enfant allait être brûlé vif et réduit lui-même en cendres. jeter un cri déchirant, s'élancer de sa retraite, écarter la braise du foyer et arracher le pauvre petit démorphon de son lit de cendres ardentes, ce fut l'affaire d'un instant. L'enfant, à demi assoupi, serrait dans chacun de ses poings un morceau de charbon enflammé. Il se mit à crier de toutes ses forces, selon l'habitude de ces faibles êtres quand ils sont réveillés en sursaut. À l'étonnement et à la joie extrême de la reine, elle ne vit aucune trace de brûlure sur les membres de son fils. Se tournant alors vers Cérès, elle lui demanda l'explication d'un phénomène aussi mystérieux. « Femme insensée, ne m'as-tu pas promis de me confier entièrement ton enfant ? Tu ne te doutes pas du mal que tu viens de lui causer. Si tu t'étais reposée d'une manière absolue sur ma sollicitude, il aurait grandi comme s'il fût issu d'une naissance divine, doué d'une force, d'une intelligence surhumaine, et sa vie n'eût jamais fini. » Te figures-tu que les fils de la terre peuvent cesser d'être mortels sans être trempés dans l'élément du feu ? Tu l'as perdu toi-même. Il aura beau devenir un homme remarquable par sa force, même un héros, il connaîtra, grâce à ta folie, les infirmités de la vieillesse. Il mourra comme tous ceux qui sont nés des autres femmes. La tendresse inconsidérée de sa mère a coûté au pauvre petit garçon le privilège de l'immortalité. Adieu. En prononçant ces mots, elle baisa le jeune prince des Montfonds, pensant en soupirant à ce qu'il venait de perdre, et s'éloigna sans écouter la reine Métanira, qui la suppliait de rester et de recouvrir son fils de braise aussi souvent qu'il lui plairait. Pauvre enfant, il ne dormit plus jamais aussi chaudement. Pendant son séjour dans le palais, Cérès avait été si constamment absorbée par les soins qu'elle prodiguait à l'hérité royale que son cœur maternel s'était en soi peu soulagé de ses peines antérieures. Mais, n'ayant plus rien qui captivât son attention, elle retomba dans ses tourments et ses inquiétudes. À la fin, poussée par le désespoir, elle prit une terrible résolution. Aucune tige de graine, pas le moindre brin d'herbe, ni pomme de terre, ni navet, ni végétaux quelconques, utiles à la nourriture de l'homme et des animaux, ne devait plus désormais pousser que sa fille ne lui fût rendue. Elle ne voulut même pas souffrir le développement d'aucune fleur, de crainte que leur beauté ne réjouît le cœur d'un mortel. Depuis lors, pas la moindre asperge ne se hasarda à poindre hors du sol sans la permission spéciale de Cérès. Et il vous est possible de comprendre quelle désolante calamité avait frappé la surface de la terre. Les agriculteurs labouraient et plantaient comme à l'ordinaire, mais les sillons, tracés dans les campagnes les plus riantes et les plus fécondes, demeuraient stériles à l'égard des déserts de sable. Les pâturages restaient aussi arides durant le délicieux mois de juin qu'ils l'étaient au milieu des frimas de novembre. Les vastes propriétés de l'homme opulent, comme l'étroit jardin du villageois, furent frappées du même décret impitoyable. Si les petites filles se plaisaient à cultiver leur parterre, elles n'y voyaient plus que des tiges mourantes et desséchées. Les vieillards s'en allaient, secouant la tête, en disant que la terre était soumise, comme eux, aux effets de l'âge, et voyaient disparaître de sa face les sourires animés du printemps. Le cœur se brisait à la vue des troupeaux affamés de bœufs et de moutons qui suivaient Cérès en mugissant et en bêlant, comme si leur instinct leur apprenait que, d'elles seules, leur devait venir du secours. Quiconque était instruit de son pouvoir la suppliait d'avoir pitié de la race humaine et, au moins, de laisser croître l'herbe. Mais celle-ci, malgré son caractère naturellement affectueux, restait inexorable. « Jamais, dit-elle, si la terre doit un jour se revêtir de verdure, que ce soit d'abord sur le chemin où ma fille portera ses pas pour revenir vers moi. » Enfin, comme un remède à de si grands maux paraissait impossible, notre vieil ami Vif-Argent fut expédié en toute hâte vers le roi Pluton pour le prier de mettre un terme au désastre dont il était cause, de rendre Proserpine et de laisser établir l'ordre ancien de la nature. Vif-Argent s'élança de toute sa vitesse vers la fameuse barrière, prit son essor au-dessus du terrible gardien à trois têtes et arriva à la porte du palais dans un espace de temps d'une brièveté inconcevable. Les serviteurs reconnurent ce visiteur à sa figure et à son accoutrement. son manteau court, ses sandales et son chapeau ailé, ainsi que son bâton entouré de serpents, avaient maintes fois été vus dans ces lieux à différentes époques. Il demanda à être introduit immédiatement en présence du roi. Celui-ci, en entendant sa voix des appartements supérieurs, se réjouit de cette visite inattendue, car il aimait sa joviale conversation. Il appela lui-même et le pria de monter. Tandis qu'ils vont ensemble régler cette affaire, voyons ce qu'a fait Proserpine depuis que nous l'avons laissée. L'enfant avait déclaré, comme vous pouvez vous en souvenir, qu'elle ne voulait goûter à rien de ce qu'on lui offrirait, tant qu'on la contraindrait à rester dans le palais de Pluton. Nous ne tenterons aucune investigation pour expliquer comment elle réussit à persister dans sa résolution et, en même temps, à conserver son teint de rose et sa santé florissante. C'est plus que nous ne saurions faire. Mais on m'a donné à entendre que souvent les jeunes filles ont la faculté de vivre de l'air du temps. Proserpine, sans doute, jouissait de cette faculté. Tout compte fait, il y avait 6 mois qu'elle avait disparu du monde extérieur. Et, au dire des gens de service du palais, le plus simple aliment n'avait jamais approché de ses lèvres. Elle méritait d'autant plus d'éloges que le roi Pluton s'était chaque jour ingénié à la tenter de 1000 façons. Rien n'était épargné. Douceurs de toute espèce, fruits confits avec un art merveilleux, friandises variées et telles que les aiment les enfants de son âge. Sa bonne mère lui avait sans cesse recommandé de ne pas manger de ces mets nuisibles, et cette raison seule, en supposant qu'il n'y en eût pas d'autre, suffit pour l'engager à ne pas les accepter. Pendant tout ce temps-là, avec son caractère actif et plein de gaieté, la jeune fille n'était pas si malheureuse que vous pourriez le supposer. L'immense palais contenait des milliers de chambres remplies d'objets rares et précieux. Sous ces innombrables colonnades, on respirait une atmosphère pesante et triste. Le souffle d'une mélancolie invisible s'y glissait au-devant de Proserpine, partout où elle pénétrait. L'écho même de ses pas avait quelque chose de morne. L'éclat des pierres précieuses, dont les voûtes resplendissaient, ne valait pas encore le plus faible rayon de l'astre qui nous éclaire. Les perles les plus brillantes et des nuances les plus riches qui servaient de jouets à Proserpine ne pouvaient entrer même en comparaison avec les simples fleurs qu'elle cueillait autrefois. Quoi qu'il en fût, partout où elle passait, une émanation de la nature semblait se répandre autour d'elle. On eût vraiment dit que de ses deux mains tombait une rosée régénératrice. Depuis l'arrivée de Proserpine, le palais avait perdu cet aspect de majesté artificielle et de sombre magnificence qui le caractérisait auparavant. Tous les hôtes de ce séjour pouvaient constater le changement qui s'était opéré, et le roi Pluton plus que tout autre. « Ma chère petite, s'habituait-il à dire, je désirerais que tu m'aimasses un peu plus. Nous autres, habitants de cet empire de ténèbres et de mystères, nous avons au fond du cœur autant de chaleur que ceux qui sont doués d'un caractère léger et facile à égarer. Si tu voulais seulement demeurer avec moi de ton propre consentement, tu me donnerais plus de bonheur que ne peut m'en procurer la possession de 100 palais comme celui-ci. » Hélas, dit Proserpine, vous auriez dû essayer de me faire partager vos sentiments avant de m'enlever. Il ne vous reste plus aujourd'hui qu'à me laisser partir. Alors, je pourrai conserver de vous un affectueux souvenir et penser que vous avez été pour moi aussi bon qu'il vous est donné de l'être. Peut-être aussi, un jour ou l'autre, je reviendrai visiter ces lieux. Non, non, répondit Pluton avec un sourire voilé de tristesse. Je ne veux pas me fier à toi pour cela. Tu aimes trop à vivre à la lumière du jour et à cueillir des fleurs. Quel goût frivole et enfantin! Regarde ces pierres précieuses que j'ai fait extraire pour toi du sein de la terre, plus riches 1000 fois que celles de ma couronne. Ne valent-elles pas mieux qu'une violette? Il s'en faut bien, répliqua-t-elle en arrachant des mains du roi les trésors qu'il lui vantait et en les lançant à l'extrémité de l'appartement. « Oh, mes charmantes violettes, ne vous reverrai-je jamais ?» Et de fondre en larmes. mais les larmes de la jeunesse contiennent une bien faible quantité de sel et n'enflamment pas les yeux autant que celles de l'âge mûr. Il ne faut donc pas s'étonner si, peu d'instants ensuite, Proserpine se livrait à son enjouement naturel avec autant de liberté qu'elle le faisait en compagnie des quatre nymphes de l'océan sur le rivage de la mer. Pluton se mit à la contempler et à désirer d'être un enfant comme elle. Proserpine, en voyant ce puissant souverain debout dans son splendide palais, avec un air à la fois si majestueux et si abattu, se sentit touchée d'un sentiment de compassion. Elle courut à lui et, pour la première fois, mit sa douce et petite main dans la sienne. « Je vous aime un peu, » murmura-t-elle en le regardant en face. « Est-ce vrai, ma chère enfant ?» s'écria Pluton en s'inclinant pour déposer un baiser sur son front, mais elle évita cette caresse, car, malgré leur noblesse, ses traits avaient une expression terrible. « Eh bien, je n'ai pas mérité de toi cette récompense, après t'avoir gardé captive tant de mois, et, en outre, t'avoir presque fait mourir d'inanition. Tu dois avoir une faim insupportable, n'est-ce pas? Ne puis-je donc rien te procurer qui soit selon ton goût ?» En faisant cette question, le roi des mines d'or et de diamants concevait une pensée pleine de ruse. Car, je vous l'ai dit, s'il arrivait à Proserpine de prendre une seule bouchée de nourriture dans ce séjour, il lui devenait à jamais impossible de le quitter. « Non, vraiment, » répondit la jeune fille. « Votre cuisinier en chef est constamment occupé à cuire, à bouillir, à rôtir, à travailler la pâte et à essayer la composition de quelques mets nouveaux qu'il imagine devoir me plaire. Il a beau suer sang et eau, ce pauvre petit bonhomme. Vous pourriez aussi bien lui éviter tant de tracas. Je n'ai d'appétit pour rien au monde, si ce n'est pour une tartine de pain cuite par ma mère ou pour un fruit de son jardin. » Quand Pluton entendit ces paroles, il commença à s'apercevoir qu'il s'était grandement mépris sur le moyen de séduire Proserpine. Tous les mets et toutes les friandises artificielles du cuisinier étaient loin, dans l'opinion de la bonne petite fille, de flatter le goût aussi délicieusement que la nourriture simple à laquelle Cérès l'avait accoutumée dès son bas âge. Surpris de n'avoir jamais eu cette idée, il envoya un de ses fidèles serviteurs avec un grand panier à la recherche des poires, des pêches et des prunes les plus belles et les plus savoureuses qu'on pût se procurer sur le globe. Par malheur, c'était le temps pendant lequel celle qui présidait aux productions de la terre avait tari la végétation dans toutes ses sources. Après avoir parcouru les différentes contrées du monde, le messager du roi Pluton ne put trouver qu'une seule grenade, et encore desséché au point de n'être pas mangeable. Néanmoins, comme il n'y avait rien de meilleur, il apporta au palais ce vieux fruit sec et fané, le déposa sur un plateau d'or et le présenta à Proserpine. Rencontre curieuse. Au moment où ce serviteur entrait par la porte de derrière du palais, notre ami Vif-Argent franchissait le seuil du portique. Il venait demander la liberté de Proserpine. Celle-ci n'eut pas plutôt vu la grenade sur le plateau d'or qu'elle dit au domestique de la remporter. « Je n'y toucherai pas, je vous assure, quand même je serai affamée au dernier point, je ne voudrai jamais manger une grenade aussi sèche, aussi misérable. »« C'est la seule qu'il y ait dans le monde entier, » répondit le suppôt de Pluton. Il laissa là son précieux plateau avec le fruit enchanté et quitta l'appartement. Quand il fut parti, Proserpine ne put se défendre de s'approcher de la table et de regarder avec une certaine curiosité ce qui lui était offert. Quelle que fût la repoussante apparence de cette écorce noire et presque calcinée, elle sentit un appétit de 6 mois lui revenir subitement. C'était sans aucun doute une grenade fort peu séduisante et qui ne contenait pas plus de jus qu'une coquille d'huître. Mais au palais de Pluton, il n'y avait pas de choix. Depuis si longtemps, aucun fruit n'avait réjoui sa vue, et peut-être elle n'en recevrait pas d'autre. Si elle n'y goûtait pas immédiatement, celui-ci deviendrait encore plus sec et tout à fait impossible à manger. « Au moins, je peux le sentir, » pensa l'imprudente. Elle prit la grenade et la porta à son nez. On ne sait comment cela se fit, mais se trouvant si près de la bouche, le fruit s'y fraya bientôt un passage. Acte à jamais regrettable. Sans savoir ce qu'elle faisait, Proserpine mordit les graines fatales à belles dents. Précisément à l'instant où cela se passait, la porte de l'appartement s'ouvrit et le roi Pluton parut, suivi de Vif Argent, qui avait vivement plaidé pour la délivrance de la captive. Au premier bruit de leur entrée, l'enfant avait retiré la grenade de sa bouche. Mais le rusé visiteur, dont le coup d'œil était aussi pénétrant que l'esprit, devina, à la confusion de sa protégée et à la vue du plateau, qu'elle avait goûté à quelque chose. Quant à l'honnête Pluton, il ne conçut aucun soupçon. « Ma chère petite Proserpine, dit le souverain de ces lieux, en prenant un siège et en l'attirant affectueusement entre ses genoux, vous voyez ici Vif Argent, qui m'apprend les grands malheurs arrivés à de nombreux innocents. Je suis accusée de causer leur détresse en vous retenant dans mon royaume. J'avouerai la vérité. J'ai déjà réfléchi que c'était de ma part un acte injustifiable de vous enlever à votre bonne mère. Mais aussi, vous devez considérer, ma chère enfant, que ce palais est bien triste et bien monotone, malgré la profusion et l'éclat de ses pierres précieuses. Il était fort naturel que je cherchasse la société de quelques créatures dont le caractère heureux fit un peu diversion à la mélancolie de mon âme. J'espérais qu'un jour, vous prendriez ma couronne pour jouer, et moi pour... Ah, vous riez, méchante ! Et moi, pour compagnon de vos plaisirs. Mais quelle prétention insensée ! Pas si insensée, vraiment, murmura la jeune fille, car vous m'avez quelquefois bien amusée, je vous assure. Merci, reprit le monarque, tant soit peu piqué. Mais je vois assez clairement que vous prenez mon palais pour une prison ténébreuse et que vous me considérez comme un geôlier au cœur de fer. Ce cœur de fer, je l'aurais en effet, ma pauvre enfant, si je prolongeais ici votre séjour après que, pendant 6 grands mois, vous avez refusé toute nourriture. Je vous rends votre liberté. Que Vif Argent se charge de vous conduire. Hâtez-vous d'aller retrouver votre tendre mère. » Or, vous ne vous en seriez pas douté, Proserpine ne put prendre congé du pauvre roi Pluton sans éprouver quelques regrets et aussi quelques remords de ne lui rien dire au sujet de la grenade. Elle versa même une larme ou deux en pensant combien ce grand palais allait lui sembler solitaire et désolé avec toutes ses splendeurs flatteuses quand elle ne serait plus là, elle, le seul rayon de douce lumière qui y eût été introduit, de force il est vrai, mais il n'avait été dérobé à la terre qu'à cause de l'admiration qu'elle avait inspirée. Je ne saurais répéter combien de choses elle aurait pu dire au maître des trésors secrets du globe si Vif Argent ne l'eût pressé de partir. « Venez, venez vite !» lui dit-il à l'oreille, « où Sa Majesté va révoquer sa décision souveraine. » « Ayez soin sur toute chose de ne pas parler de ce qu'on vous a apporté sur le plateau d'or. » Ils eurent bientôt franchi la fameuse barrière et laissèrent derrière eux Cerbère furieux et faisant entendre un triple grognement. Puis ils repartirent sur la surface terrestre. Quel spectacle délicieux ! À mesure que Proserpine s'avançait, la verdure renaissait de chaque côté du chemin. Partout où elle posait le pied, une fleur se montrait fraîche et close. Les violettes surgissaient comme par enchantement. Les graines germaient et l'herbe poussait avec 10 fois plus de vigueur pour compenser la cruelle stérilité dont la terre avait été frappée. Les bestiaux, exténués de besoin, se mirent aussitôt à brouter avec avidité après un jeûne si prolongé. Ils mangèrent toute la journée et se réveillèrent à minuit pour manger encore. Et les fermiers ? Je vous affirme qu'ils eurent d'accablants travaux sur les bras en voyant l'été arriver subitement et toutes les céréales se développer aussi vite. Ne négligeons pas non plus d'ajouter que les arbres, à la fois enrichis de feuilles et de boutons, se couvrirent d'oiseaux qui voltigeaient de branche en branche en faisant résonner l'air de leurs chants d'allégresse. Cérès, la mère de l'agriculture, était de retour dans sa demeure déserte et s'était assise sur le pas de sa porte, sa torche allumée à la main. Elle considérait d'un air insouciant la flamme vacillante, quand soudain elle la vit s'éteindre. « Que veut dire cela ? » pensa-t-elle. « Une torche enchantée, dont la lueur devait briller jusqu'à ce que ma fille me fût rendue. Elle lève les yeux et sa surprise est extrême. La verdure vient, en moins d'un clin d'œil, de couvrir les plaines desséchées, comme vous avez souvent vu, au lever du soleil, une nuance dorée s'étendre loin sur la prairie. « Et quoi ? La terre me désobéirait ? » s'écrie-t-elle indignée. « Prétendrait-elle redevenir verte quand je lui commande de rester brûlée et aride jusqu'au moment où je pourrai serrer mon enfant dans mes bras ? Ouvre-les donc, ses bras chéris, et couvre ta petite fille de baisers !» À peine ces accents d'une voix bien connue se sont fait entendre que Proserpine s'élance sur le sein de sa mère. Ne me demandez pas de vous décrire leur transport mutuel. Je renoncerai à cette tâche impossible. Une séparation douloureuse et prolongée leur avait fait répandre à toutes deux bien des larmes amères, et maintenant elles en versaient de plus abondantes et de plus douces. Mais c'était parce que leur joie ne trouvait pas d'expression plus éloquente. Leur émotion une fois calmée, Cérès regarda Proserpine avec anxiété. « Mon enfant, as-tu pris quelque aliment dans le palais du roi Pluton ?»« Mère chérie, je vais vous dire toute la vérité. Ce matin encore, je n'avais rien porté à mes lèvres, mais aujourd'hui, on m'a apporté une grenade complètement desséchée. Il n'en restait plus que l'écorce et les graines. Comme depuis si longtemps je n'avais pas vu un seul fruit et que je mourais d'épuisement, j'ai cédé à la tentation, j'ai mordu dedans. » Au moment où j'y goûtais, le roi Pluton et Vif-Argent entraient dans l'appartement où je me tenais. Je n'avais encore rien avalé, chère mère. J'espère que je n'ai pas mal fait, au moins. Mais j'ai peur de l'avouer, 6 graines de la grenade étaient restées dans ma bouche. Ah, fille infortunée, et moi, malheureuse mère, pour chacune de ces 6 graines de grenade, tu devras passer 1 mois de chaque année dans le palais du roi Pluton. Je ne t'ai reconquise qu'à moitié. Je ne pourrai jouir de ta présence que 6 mois, et les autres mois, tu appartiendras à ce misérable souverain du ténébreux empire. » Ah, ne parlez pas si sévèrement du pauvre roi Pluton, répliqua Proserpine en embrassant de nouveau sa mère. Il ne manque pas de bonnes qualités, et je pense que je pourrai facilement passer 6 mois dans son palais s'il me permet d'en passer autant près de vous. Il a certainement agi fort mal en m'enlevant par surprise, mais comme il dit, quelle vie horriblement triste il menait là, tout seul, dans ce séjour si morne et si sombre. Si vous aviez vu comme ma seule présence a opéré un merveilleux changement autour de lui, il y a un certain plaisir à le rendre si heureux. Et après tout, mère bien-aimée, remercions les dieux de ce qui ne me gardera pas là-bas pendant l'année tout entière. »